Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On se jeudi soir, et oui, jeudi 2 février, des sourires éclatants avec moi qui m'accompagneront jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa à 21h-23h. Allez, la plage horaire 20h-21h sur l'antenne de Beurre FM. C'est Time Sport, votre quotidienne sportive. Et au menu de cette émission, ce jeudi 2 février, la chandeleur, et oui, là, la réalisation, eh ben, on nous a préparé pas mal de crêpes, hein, en tout cas, ouais, on espère, on va voir. Marseille qui devance tout le monde en championnat de France, et oui, dans cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Les pépites du football, avec notre journaliste consultant, qui n'est autre que Abdel, comme chaque jeudi soir. Il sera avec nous pour en parler justement de ces fameuses pépites du football français. On parlera aussi du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich sans Kylian Mbappé. Vous pouvez réagir en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. À savoir aussi le débat du jour. On le rappelle, rien que pour vous, chers auditeurs. Marseille, peut-elle, cette équipe, remporter le championnat de France de Ligue 1 Uber Eats? Voilà, rien de plus simple, le 01 53 48 3000. Vous le composez et on vous fera réagir avec nous. On vous fera même remporter un magnifique ouvrage avec Alex Levent. 30 jours pour justement ficeler et aussi affectionner, je sais pas, oui, et aussi donner une certaine musculature éclatante de votre corps pour vous, les hommes, et aussi pour vous, les femmes. Hein, plus simple, vous appelez le 01 53 48 3000. Allez, sans plus tarder, je vais présenter le magnifique plateau. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Il est pour parler.
Abdel, je vais pas te mettre la pression ce soir, mais en tout cas, il y a pas mal de personnes qui vont écouter ta chronique, hein. Voilà, je tiens à te le dire. Je suis sérieux. Comment ça va, Abdel?
Ça va, Bilal. Bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là et très content que la chronique puisse être mise en valeur au fur et à mesure de la saison.
Eh ben, tout le temps. Un grand merci à toi, Abdel. On est avec Nasser, juste en face. Comment ça va, Nasser?
Buonasera a tutti. Bonsoir à toutes et à tous et à tous nos auditrices et nos auditeurs. Un gros bisou à Myriam Gess de Vitry-sur-Seine, Vincent de La Rochelle qui nous écoute. Voilà. Et Rachid de Boumerdès, ce
soir. Allez. Eh ben, Rachid, Myriam et Vincent. C'est
exactement.
Ça. Voilà. On accueille aussi Mickaël, notre consultant. Comment ça va, Mickaël?
Bonsoir à tous. Ben, ça va nickel.
Tu vas bien?
Ouais.
Ouais, tranquille. Ouais, un petit clin d'œil aussi à Juba depuis la Réunion.
Ouais, petit clin d'œil à Juba. Ouais.
Qui nous écoute ce soir.
Il est toujours là.
Ouais. Il est toujours là, Juba. C'est vrai. Ça. Tu fais bien de le rappeler.
Est-ce qu'il va appeler ce soir ou pas?
Ah ben, je sais pas. Je sais pas. On va voir. Peut-être un débat avec Abdel ou encore Vivien. Bonsoir, Vivien. Comment ça va, Vivien?
Ça va, ben, ça va très bien. Ben,
tranquillement.
Ben, si on part de l'étranger,
le championnat de basketball nord-américain, c'est assez impressionnant. Les Knicks face au Boston hier. Moi, j'ai bien aimé le match.
Oui, aller en quelques mots sur l'NBA très rapidement. Bon, Boston a fait une très grande démonstration, une très très large victoire. C'est clairement la meilleure équipe NBA. On peut saluer pour la nuit dernière la performance de Damian Lillard qui met 42 points pour Portland dans une très très belle victoire à Memphis. Donc là, on va dire que les deux équipes à battre en NBA sont un petit peu les Celtics à l'Est et les Nuggets à l'Ouest.
Allez, impossible n'est pas vrai. Il était déjà venu avec nous sur cette antenne de Beurre FM. Il est encore avec nous ce soir. On l'invite justement parce qu'il y a du lourd ce soir. Hein. Impossible n'est pas vrai. On a la personne de Mohamed. Bonsoir Mohamed. Hein. Attention parce qu'il y a Abdel. Hein, tu vas voir, il va nous sortir des petites pépites encore.
Impossible n'est pas vrai en direct de Beurre FM. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir.
Ah ben, nous aussi, ça fait vraiment plaisir. Tout comme Anthony à la réalisation. Bonsoir Anthony. Ouais, je crois que le réalisateur, il est un peu serré, quoi, ce soir.
Hein. Il est on fire.
Il est encore dans l'euphorie de la victoire hier à Lens.
Première équipe à faire chuter les Lensois. Hein. Le Olélé, oulala, on les a chicotés le où Nord. Ils sont passés.
Eh oui, bravo.
Le Nord, c'est Lille.
Eh oui. Voilà. Et Marseille passe devant les Lensois.
Exactement. Je t'avais dit quoi? Hier, j'avais dit quoi? Que Boudaoui, pour l'instant, il était pas blessé. Bah, je vais porter l'œil, il s'est blessé. Aïe, et Todibo aussi.
Tout ça grâce au grand Didier Digard.
Hein. Eh ouais. Eh ben,
incroyable.
Didier, le débat du jour. Ouais.
Ancien du Havre, Digard.
Eh oui, c'est vrai. Le club doyen, le HAC. Justement, le débat du jour. Marseille peut-elle être championne de France avec cette équipe? Selon toi, Mickaël, allez, on te donne la parole en premier.
Est-ce que Marseille peut être champion de France au vu du classement aujourd'hui et au vu du mois de février qui s'annonce? Moi, je dis que c'est possible. Après le Paris Saint-Germain, comme on en a parlé en off tout à l'heure, Bilal, on disait que le PSG...
Ah, tu balances les off, toi.
Ouais, on balance un peu.
On est fou.
Je disais que du coup, il va y avoir un parcours assez compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et que oui, forcément, le PSG en Ligue 1, s'il veut gagner et qu'il est sérieux, il gagne. Il y a trois classes d'écart entre le PSG et les autres équipes sur le papier. Le souci étant que le PSG va rencontrer l'Olympique de Marseille donc là dans une semaine au Vélodrome et les rencontre encore une fois à la fin de du mois au Vélodrome. Donc d'ici là le PSG jouera contre va jouer contre Toulouse, va jouer contre le LOSC, va avoir le Bayern de Munich qui est très important. Est-ce que ça va pas monopoliser la concentration des Parisiens, je ne sais pas. Et ensuite, il y aura Monaco à l'extérieur. L'Olympique de Marseille, c'est un calendrier un peu plus tranquille, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Ça va jouer contre Nice, ça va jouer contre Toulouse, ça va jouer contre Clermont.
Oui.
Donc, arrivé au Classico à la fin du mois, on verra où ils en sont les deux équipes. Mais aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, pour moi, est la meilleure équipe de Ligue 1. Le mercato a été très, très cohérent. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de folie dans cette équipe. Ils ont pris Unai et Ruslan Malinovski, plus le petit Vitinha devant. Donc je trouve que l'OM travaille très bien.
Ouais, avec Longoria, on en parlait hier.
Avec Longoria qui fait toujours aussi bon travail.
C'est vrai.
Donc ils peuvent, en tout cas, les Marseillais peuvent y croire. En tout cas.
Bien sûr, ils peuvent y croire selon Mickaël. On va avoir le retour avec toi, Abdel, justement. L'Olympique de Marseille version Longoria et aussi Tudor.
C'est peut-être, on écrivait. C'est peut-être l'année où jamais pour Marseille d'aller. Peut-être récupérer un titre. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont bien partis, comme l'évoquait Mickaël. Il y a un calendrier qui est plutôt favorable avec seulement une compétition nationale. De plus, ils joueront contre le PSG. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que l'OM est une équipe assez complète dans le sens où il y a eu de très bonnes recrues, que ce soit au mercato hivernal ou au mercato estival, et dans le sens où ces recrues du mercato estival, elles commencent à monter en puissance au fur et à mesure et apportent l'équilibre tant attendu par Igor Tudor. Dans les recrues qui sont faites, Mickaël parlait de Malinovski, il y a aussi l'arrivée de Vitinha, qui a un profil de numéro 9, qui frappe fort, qui met beaucoup d'intensité, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc c'est un profil qui est super intéressant.
Et qui sera complémentaire avec Alexis Sanchez, qui fait une très bonne saison en plus.
Effectivement, et surtout, je pense que voilà, ils ont la possibilité d'aller titiller le PSG. Maintenant, quand on connaît le PSG, on sait que potentiellement, quand ils sont dans la position du chassé, ils perdent rarement leur place. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre entre guillemets un 50-50.
Bien sûr.
Mais encore un grand chapeau, parce qu'on parle de Longoria, mais encore un grand coup de chapeau à Igor Tudor, qui était tellement
décrié,
qu'on a beaucoup défendu sur ce plateau, et qui au fur et à mesure impose sa patte, les joueurs comprennent un peu où le coach veut en venir.
Ouais.
Et je pense qu'il y a cet effet de groupe, cette effervescence qui fait que potentiellement avec un coach de caractère, tu peux déplacer des montagnes et peut-être aller chercher un titre là où on t'attendait pas en début de saison.
Intéressant, Abdel. Ouais, on va poursuivre avec. Oui, il est d'accord avec toi, Mohamed. Impossible n'est pas vrai. Vous pouvez nous suivre justement du côté du Havre, mais aussi du Mans, le Centre 2.9 et à travers la France avec l'application, même à l'échelle internationale sur iOS et aussi Android, notamment sur vos smartphones et tablettes. Nasser, on t'écoute. Alors justement, Nasser.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment l'analyse qui a été faite par Mickaël, mais aussi Abdel ce soir. L'Olympique de Marseille peut éventuellement titiller le Paris Saint-Germain et peut prétendre au titre cette saison. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, on l'a pu le voir face à Montpellier Hérault au stade de la Mosson, aurait pu perdre cette rencontre, voire être tenu en échec. Il y a eu les coups de génie, encore une fois, de Lionel Messi, et puis du joueur, le jeune attaquant qui a fêté son premier but en Ligue 1, Zaïre Emery, que j'aime beaucoup, ce petit garçon qui va faire vraiment du bien cette équipe parisienne. En fait, le Paris Saint-Germain, si elle continue comme ça à se mettre une balle dans le pied, elle peut être en danger. Parce que Marseille, elle va pas hésiter. Tout d'abord, déjà, elle va accueillir l'OGC Nice ce week-end. Ça va être un match qui sent la poudre dans son land du Vélodrome. Et je peux vous dire, ça va gronder.
Ouais.
Les 60 000 spectateurs du stade Vélodrome vont bien accueillir l'OGC Nice ce week-end. C'est pour ça que on est à un tournant, là. Ça va être un mois difficile pour le Paris Saint-Germain. Surtout ce mois-ci, on en avait parlé avec la double confrontation de l'Olympique de Marseille. Ils les attendent de pied ferme. Et puis, vous connaissez l'information de la soirée. Kylian Mbappé.
On va revenir. Donc, on va revenir sur cela. Là, c'est Marseille. C'est Marseille.
Mais Marseille. Voilà. Pour revenir
Paris,
sur Marseille.
Un peu Marseille aussi.
Oui, exact.
Mais bon, tu le sais. Faire les jaloux. Mais bien Marseille, sûr. Voilà. On le sait.
Tu le sais.
Mais les auditeurs ne le savent pas.
Ah là, bien. Oui, voilà. Et Vivien. Vivien, on t'écoute. Marseille. Oui.
Profession privée.
Tu le sais. Mais tu exagères. Dev Bond, c'est ça.
Non, mais alors, si on reprend déjà pour nos auditeurs, en stade, c'est 46 points en 21 journées. c'est la première fois depuis 99 que l'OM a un tel bilan. C'est pour dire, là, c'est un vrai parcours de champion. Et alors, vous avez beaucoup parlé que de Paris et Marseille, je vois pas pourquoi vous mettez Lens de côté. C'est pas parce que Lens a perdu pour moi, par exemple, hier, Nice a fait un très très bon match. Et par exemple, là où j'étais justement un peu en désaccord avec vous, c'est que quand vous parlez de calendrier facile, le OM Nice, dimanche, pour moi, c'est déjà un premier test. Et je pense pas que ça va être un match si simple que ça à gagner pour les Marseillais. Donc,
non, c'est vrai.
Clairement, j'aime beaucoup ce que fait Tudor. Alors, ouais, ce que j'ai beaucoup aimé chez Tudor, c'est sous les ajustements tactiques qu'il fait. On prend le match à Monaco, la première mi-temps, je trouve qu'ils prennent un bouillon. Et il s'est réglé en deuxième mi-temps. On a l'impression que c'est plus la même équipe. Et même hier, même si c'était, ils ont moins souffert contre Monaco, mais j'ai trouvé qu'il y a eu un vrai avant et après. Donc, je trouve qu'il y a un coach qui fait des vrais ajustements et qui s'est impulsé les joueurs qu'il faut en cours de match.
Ouais. Si je peux juste
rapide, avant de donner la parole à Mohamed aussi.
Potentiellement, oui, avec cette première défaite, peut potentiellement repartir, c'est pas dans une crise bien évidemment, mais dans ce coup de mou qu'ils connaissent souvent depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, on se dit que peut-être ça peut mettre un coup au moral et un coup dans la dynamique. Donc c'est pour ça potentiellement que on a du mal peut-être à mettre Lens dans les débats. Après certes, au niveau comptable, c'est encore tout proche, mais je pense que il va falloir attendre cette période de février pour voir Lens de quelle manière ils sont capables de réagir.
André Ayew, l'ancien Marseillais, a signé du côté de Nottingham Forest, hein, c'est bien ça.
La maison de retraite là-bas.
Mohamed, que nous avons pas. Ouais, c'est vrai. Nottingham Forest, c'est un renouveau. Deux fois champion d'Europe, hein.
Oui, c'est ça. Rappeler.
Sur Marseille, on va revenir à Nasser.
On a fait un petit live avec Abdel en début de saison, justement, par rapport à Tudor, et on s'est rendu compte que les Marseillais, au départ, étaient très épuisés, puisqu'ils avaient une grosse préparation physique. Et aujourd'hui, tu vois, ça a été bénéfique quelque part, contrairement aux autres équipes. Et moi, je suis persuadé que Marseille ira au bout, parce qu'en plus de ça, tu sens parfois certaines équipes, le mercato était très bon, Unai, il rentre, il marque. Il y a quand même des facteurs chance aujourd'hui qui sont du côté de Marseille. Il y a quand même une euphorie qui commence à se prendre. Moi, je crois franchement que Marseille peut aller au bout. J'en suis persuadé par rapport à ça.
Ah, carrément. Ouais. Nasser, tu vois.
Voilà, en fait.
C'est vrai, ils sont plus composés comparés.
Il n'a pas
tort, Mohamed.
On en a parlé, il l'avait dit aussi, Abdel, sur notre plateau, sur Time Sport, depuis le début de saison, quand tout le monde commençait à dire Tudor. Ouais. En fait, il y a Longoria et Tudor. Et Longoria, il fait un travail formidable.
À donner la confiance quand les supporters le sifflaient.
C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est lui qui l'a choisi.
Et qui l'a maintenu, parce qu'en septembre.
Et il fait un bon mercato d'hiver, Longoria. Il y a un public qui est derrière. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde est uni pour aller dans le même objectif. Et par rapport à ce que je vois, alors on parlait du Racing Club de Lens, que j'aime beaucoup. Hein. On a des gens qu'on connaît là-bas du côté de Lens. Ils ont un déplacement périlleux ce week-end du côté du Stade Francis Leblé à Brest, qui joue le maintien. Et des fois, c'est nos équipes comme ça. Ça sera compliqué.
C'est important juste. Par rapport à ce qu'on parle beaucoup de Longoria et Tudor, on les dissocie. Pour moi, il faut les associer, parce que montrer que t'as le soutien et l'accompagnement de ton président qui est de ce fait aussi très jeune, et ben il y a une certaine proximité. On te laisse jamais de, pardon Mickaël, ouais, on te met jamais de côté. Ouais. Et je pense que le soutien, il est important en interne, quand on te critique, quand on est un peu contre toi. Et je pense que il assume ses choix comme toujours, Longoria.
Le fait, c'est vrai.
Et pour l'instant, ça lui donne raison. Alors que au début de saison, quand il est arrivé, Tudor, on disait c'est peut-être le premier choix qu'a fait Longoria. Et au final, pas mal de personnes retournent leur veste.
Allez, Anthony, à la réalisation, avant de donner la parole à Mickaël.
C'est vrai que Marseille, pour l'instant, est dans une très bonne dynamique. C'est vrai que, comme l'a dit Vivien et tout le monde autour de la table, c'est un vrai test pour Didier Digard et Tudor ce dimanche à 20h45 sur Prime Video. Je pense que Nice...
C'est bien le teaser, hein.
Exactement.
Tu fais bien.
Merci. Je pense que Nice est dans une bonne dynamique. On l'a encore vu hier avec le match contre Lens, où on était très très bon défensivement. Même si Todibo est sorti, on a eu le petit Youssouf qui l'a remplacé, qui était pas mal. Ramsey qui revient à son prime. On a eu aussi le petit Alex Mendy qui est venu en défense, qui a bien comblé les problèmes. Je pense que Marseille peut peut-être chavirer dans ce match du côté négatif, parce que je pense qu'en moins il commence à se fatiguer au niveau des mi-temps. On l'a encore vu récemment et contre Nantes. Donc je pense que Nice peut aller chercher, pourquoi pas, une victoire ou le match nul. Et si Nice va chercher la victoire, on rappelle, ils sont à 4 points de la Cinquième place. Si
je le derby du Sud. Eh oui. Olympique de Marseille face les Phocéens, face aux Aiglons. Oui, Mickaël, avant la pause, la première.
Je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que disait Abdel, il a raison. Et surtout que
Tudor, il a fait dans surtout... cette émission ce soir.
Ah bah oui, bien sûr, c'est la chambre.
Il a été bon.
Bah oui, quand même, arrête.
Il est bien,
il était bon. Oh là là, vas-y Mickaël.
Surtout qu'il a fait des vrais choix, Igor Tudor, c'est-à-dire Gerson, il l'a mis de côté. Alors que l'année dernière, Gerson avait fait une très très belle saison, c'est l'un des meilleurs Marseillais. Et Dimitri Payet est remplaçant, donc il a fait vraiment des choix forts. Et c'est pour ça que je dis que c'est pour ça qu'Abdel a raison de dire que Pablo Longoria, c'est important le soutien d'un président derrière son coach.
Et tu fais bien de le dire et de le rappeler.
Mais surtout, pour revenir sur le débat Marseille-PSG,
ouais.
Si le PSG veut gagner le titre, le PSG gagnera le titre.
Et voilà. Eh ben on verra. Ah ben là, ça promet, vous restez avec nous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. Voilà, vous pouvez réagir, d'accord ou pas, avec Mickaël. Le 01 53 48 3000. Un petit clin d'œil aussi à Abdel, à Vivien, sans oublier Nasser et même Mohamed. Voilà, vous nous appelez, on réagit tous ensemble. À la de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, jeudi soir, 20h et 16 minutes, toujours en compagnie de Nasser, Mickaël, Mohamed, Impossible n'est pas vrai, et aussi Vivien. Allez, place à la fameuse chronique avec notre consultant Abdel.
Time Sport, la formation d'Abdel.
Bonsoir à tous. Ce soir, on se déplace du côté du Rocher, du côté de Monaco, où je vais présenter Elias Benseguir, que j'ai découvert l'année dernière en Gambardella. Joueur né en 2005, droitier qui évolue justement à l'AS Monaco. Son poste, c'est un joueur qui occupe les postes offensifs, habituellement dans les couloirs ou même dans le cœur du jeu. Il aime bien rentrer à l'intérieur du jeu. Alors, pourquoi j'ai décidé de présenter ce joueur ce soir ? C'est que il a une énorme personnalité, une personnalité très forte. Il a beaucoup de caractère. C'est un joueur qui ne se prend pas la tête, qui peu importe s'il joue avec l'équipe réserve ou avec l'équipe une, eh ben va prendre les choses en main. Et surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il ne se cache pas lorsque l'équipe est en difficulté. En plus de ça, voilà, il a vraiment faim, il a envie de casser toutes les portes. Et c'est ce qu'il fait très très bien, parce que depuis son entrée en jeu le 28 décembre à Auxerre, où il a inscrit un doublé pour donner la victoire à l'AS Monaco, et ben il a enchaîné 5 titularisations d'affilée en Ligue 1, plus une entrée en Coupe de France face à Rodez. Alors on sait que souvent, et notamment à Monaco, les jeunes ne font que des apparitions, mais depuis cette performance, franchement, il est dans de très bons rails. On a l'impression qu'il est comme un poisson dans l'eau dans cette équipe. Grosse capacité d'adaptation par rapport à l'effectif. Il s'est mis rapidement au diapason et au niveau. Chose très dure, parce qu'on le rappelle, il a tout juste 17 ans, pardon. Alors, c'est le genre de joueur qu'on aime regarder, parce que il est très élégant, une bonne relation avec le ballon, et très fort techniquement, et surtout de très bons fondamentaux dans les bases du football, que ce soit son contrôle, que ce soit ses prises de balle, sa première touche. Il est capable de faire des choses extraordinaires avec le ballon. Ce que j'apprécie également, c'est sa variété dans le jeu. Alors c'est un joueur qui aime dribbler, qui est percutant, qui va chercher le 1 contre 1 pour éliminer son adversaire par un dribble, par une feinte de frappe. Mais il est capable aussi de faire la différence par la passe, beaucoup de passes cachées. Il a beaucoup d'inspiration, on dirait presque même les yeux dans le dos. Il a une autre faculté, c'est que c'est un profil assez longiligne, donc il est capable aussi de garder les ballons dos au but pour faire monter le bloc. Très important aussi, une grosse frappe de balle. Il frappe très fort. On a l'impression que c'est des flottantes, comme si on était dans un dessin animé qui nous rappellerait Olivier Tom. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est capable d'être à la finition des actions. En témoignent ses 3 buts en 6 matchs avec Monaco. Tous les 3 ont été inscrits face à Auxerre, qui est déjà, dont il est déjà la bête noire. Pour un jeune de cet âge-là, souvent, on pense que Voilà, on va rentrer petit à petit sur la pointe des pieds. Lui, c'est totalement le contraire. Il est toujours disponible pour ses coéquipiers, pardon. Il est constamment en mouvement et il n'hésite pas à faire des courses à vide pour attirer un défenseur et créer de l'espace pour ses coéquipiers. Et je trouve que ça témoigne d'une grosse intelligence de jeu, d'un vrai QI football. Là, on aurait pu le dire, il se déplace aussi, pardon, excusez-moi, très bien entre les lignes, comme je disais tout à l'heure, pour justement partir du couloir et venir à l'intérieur. Pas de souci, j'ai bientôt terminé, monsieur Nedman. Et en plus de ça, ce que j'aime bien, c'est que on parlait souvent des tâches défensives chez les jeunes défenseurs où ils sont obligés de l'apprendre. Lui, c'est inné. C'est vraiment ton premier défenseur quand l'équipe perd le ballon. Il a vraiment une grosse débauche d'énergie, pressing intempestif sur les adversaires. Dû à sa percussion, il obtient énormément de fautes, donc des coups de pied arrêtés intéressants pour son équipe qui est vraiment dangereuse dans ce domaine-là. Une chose à dire encore une fois, c'est le deuxième plus jeune joueur du club à avoir inscrit un but après Thierry Henry, mais le premier à avoir inscrit un doublé. Donc c'est pas n'importe quoi. Pour conclure sur ses améliorations, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur longiligne, donc il est capable d'apporter dans le jeu aérien. On a vu, faut qu'il se perfectionne dessus. Au niveau de la finition aussi, il marque beaucoup de buts, mais avec un peu plus de lucidité, un peu plus d'efficacité dans le dernier geste, je pense qu'il aurait conclu pas mal d'actions depuis le début de la saison. Et après, il y a son volume de jeu. C'est un joueur qui a 17 ans, qui a besoin d'enchaîner les matchs. Donc voilà, je vous invite à suivre Elias Benseguir qui est en train de tout déchirer à l'AS Monaco et qui a encore inscrit un but hier face à la JOCR.
Elias Benseguir, c'est ça, un vrai vivier alors l'AS Monaco. Oui, Nasser, peut-être un mot avec aussi Mohamed. On t'écoute.
Un joueur qu'on connaît puisque c'est une famille qui est du sud de l'OGC Nice à la base.
Exactement, hein. Ce que j'allais dire.
Et la plupart des joueurs qui sont à l'OGC, oui.
Ah, ça touche à Nice, ben oui, allez, voilà.
Et oui, et en plus, il a évolué dans toutes les catégories de l'équipe de France. Maintenant, la grande question, c'est à savoir, c'est quelle équipe il va choisir, la France ou le Maroc. Ça va être une bonne question à lui poser prochainement du côté de Monaco.
Et juste, il fait à peu près
80, je crois. Ouais, il doit faire 1m80, 1m81. Ouais. Il a un profil assez grand.
Élégant.
Et c'est très fin. Ah ouais, très fin techniquement.
C'est vachement intéressant, je trouve. Par rapport aux qualités qu'il a décrites, je trouve que s'il fait plus d'1m80, oui, c'est.
Son frère joue à l'Olympique de Marseille.
Il vient d'être prêté à Valenciennes, justement. Mais pour le profil, c'est vrai que c'est un joueur qui a. On n'a pas l'impression qu'il a les qualités par rapport à son profil, par rapport à sa taille. Et franchement, il régale. Et comme je disais tout à l'heure, sa personnalité, son caractère fait que on a l'impression qu'il est comme un poisson dans l'eau et qu'il est dans l'effectif depuis des années. Or, ça fait seulement 6 matchs qu'il est là. Mais je trouve que ça témoigne des grands, parce qu'on parle d'Henry, on parle bien aussi de joueurs comme Mbappé qui ont réussi à Monaco. Et il est de cette trempe-là, on dirait. Donc, on lui souhaite le meilleur.
Moi, j'ai vu
ces. Alors, Michael, et Mohamed.
Est-ce que dans le profil, tu le comparerais à Ben Yedder, par exemple? Alors, dans sa faculté à savoir un peu tout faire, marquer, faire la passe, faire le jeu, tu le comparerais à ce genre de joueur ou pas?
Non, pas forcément Ben Yedder, parce que c'est un profil beaucoup plus petit, plus agile, même si j'ai donné ses qualités. Après, c'est un peu particulier parce que, comme le disait Vivian, il est grand mais il est très agile, donc c'est difficile de le comparer à un joueur
en particulier.
Ouais, après tu vois, c'est dur parce que je pense que chacun est propre à lui et je pense qu'il faut le laisser grandir, mais ça va être Ben Seguir au lieu qu'on le compare à un autre joueur.
Oui, Mohamed, on l'écoute.
Sur Monaco, c'est important de le dire, en fait, c'est que Monaco, en fait, c'est assez spécifique dans leur façon de faire évoluer leur équipe réserve. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de championnat. Les joueurs, en fait, ils les préparent comme s'ils étaient dans une équipe professionnelle. C'est-à-dire qu'ils les font participer à des matchs tous les 3 jours, ils vont faire des matchs à l'étranger. En fait, c'est un championnat qu'ils ont créé juste pour que ces joueurs puissent toucher, je dirais, le très haut niveau. Et aussi, la problématique qu'ils avaient trouvée, eux, qui leur posait problème, c'est que ces joueurs-là, quand ils jouent en amateur, mettons en N2, ils vont jouer contre des équipes qui jouent en bloc défensif. Du coup, en fait, les joueurs, ils peuvent pas s'exprimer totalement. Et le fait qu'ils créent ce championnat, on va dire, ce nouveau championnat qu'ils ont créé, qui n'est pas homologué, bah, il permet justement à tous ces joueurs de pouvoir exploser. Et derrière, quand ils jouent en Ligue 1, ils sont prêts.
Ouais. Plus de repères.
Intéressant.
Dernière phrase, c'est vrai que
Abdel,
moi je connais pas mal de joueurs qui évoluent à l'AS Monaco en jeune, qui n'ont pas eu cette chance-là. Alors peut-être qu'il manque quelque chose, ça, c'est les choix du coach. Mais le fait qu'un joueur qui soit plus petit que les joueurs que je viens de citer soit titulaire, mettre des joueurs sur le banc comme de temps en temps, ça peut être Mbolo, que ça peut être Ben Yedder, ça peut être Golovin, c'est quand même du très très lourd. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il a l'accompagnement de son grand frère qui est très proche de lui. C'est un cadre très très familial et je pense que c'est ça qui lui permettra de pas se brûler les ailes. En tout cas, voilà, on espère le voir monter les échelons comme je disais tout à l'heure.
Alors c'est Antonio à la réalisation qui nous fait part de cette information qui est tombée chez nos confrères de la Corriere dello Sport en Italie. C'est la vieille dame italienne, la Juventus de Turin, qui pourrait être pénalisée de 20 points supplémentaires pour l'affaire de la manœuvre de la manœuvre salariale. Le club aurait donc 3 points et serait dernier de Serie A, Abdel, à 15 points du maintien. Vivien, oui, peut-être un mot concernant cela. On t'écoute.
Ça serait une grande, va être une catastrophe s'ils arrivent pas à se maintenir maintenant dans la Serie A italienne. Et ça me fait rappeler aussi à l'époque du Toto Calcio et puis aussi voilà quand la Juve était descendue en Serie B et puis c'était M. Deschamps qui avait récupéré la Juve pour la faire remonter en Serie A. Ça va encore, ça va être encore beaucoup de travail du côté du Piémont. On espère que. Qui vont se maintenir quand même parce que on aime la Juve.
Ouais. Ah ouais, la Juve. Alors Abdel, Michael.
On a l'impression que la Juve, elle se fait toujours attraper. Ouais. Bon, peut-être pas les autres, mais ils sont pas tout seuls à faire des.
Il y a Napoli. Ouais. Napoli qui a des problèmes. Des,
comme on le disait, faudrait que ça touche un peu de manière européenne parce que là, c'est la fédération italienne. On le rappelle qui fait ces démarches-là. Donc c'est les équipes qui évoluent dans le championnat qui sont pénalisées. Mais quand tu fais des transactions avec d'autres clubs et que eux pour l'instant, tout va bene comme on pourrait dire. Et ben, je comprends pas forcément pourquoi on n'ouvre pas vers d'autres horizons l'enquête.
Oui, Michael.
C'est terrible pour la Juve. Comme l'a dit Nasser, on espère qu'ils vont se maintenir quand même vu le monument que c'est. Maintenant, ça va être très compliqué. Je me demande comment, quand t'es joueur de ce genre d'effectif, t'encaisses ce genre de nouvelles. Sportivement, comment t'arrives à redresser la barre? Ça doit être extrêmement, extrêmement compliqué. Et une pensée à tous les supporters de la Juve qui nous écoutent.
Ouais. En tout cas, là, ce soir, on a plutôt l'Espérance sportive de Sartrouville. Et oui, qui nous écoute ce soir. Et un gros big up à Majid Bouguera. Eh oui, voilà. Ah, eh oui, ah ben là, ça te fait sourire, toi. Nasser. Ben non. Toujours commencer par oui.
Oui.
Eh oui.
Parce que Majid Bouguera, c'est que.
Jamais être défaitiste.
Non, on n'est pas défaitiste.
Je sais bien, je te taquine, Nasser.
Tu sais très bien que je suis un suiveur de l'équipe nationale.
Aïe, 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 Nasser, notre globe-trotteur. Ouais, un vrai de vrai.
Majid Bouguera, c'est le garçon qu'on pourrait voir après 2025, 2026.
Prochain rendez-vous du côté de Houston avec Vivien.
Ah ouais, oui, exactement. Du côté de Miami ou
pourquoi pas. Ouais, ça va. Le 0153483000, je crois qu'on a un Marseillais qui aimerait réagir concernant l'Olympique de Marseille. Bonsoir.
Bonsoir
Ousine, comment ça va? Un fervent auditeur aussi. Ah ben, vous avez le bonsoir d'Abdel aussi, de Vivien. Bonsoir, concernant aussi. L'Olympique de Marseille, c'est bien ça? Ousine? Ah ben Ousine, il est parti. Voilà.
Aussi, il a la sécu du stade Vélodrome.
Il est avec le Ricard.
Non, quand même pas.
Boulevard des Dames.
Boulevard des Dames, c'est très sympa le boulevard des Dames. Mais oui, c'est vrai. Boulevard des Dames. Vivien, on te regarde comme ça. En tout cas, voilà. On a fait le tour un peu sur l'Olympique de Marseille. Ossine, il est avec nous. Il n'est plus avec nous. On n'entend plus Ossine. Hein. Oui, allô Ossine? Bon. Ossine, on l'a plus Ossine. Bon, ça ne fait rien. On était sur l'Olympique de Marseille. Sur l'Olympique de Marseille, on a parlé de cette fameuse jeune pépite du football français du côté de Monaco. On va essayer de s'attarder, sur le dernier sujet de cette
Time Sport. La parole des sociaux.
Elle est assez forte cette parole des socios. Justement, avant la dernière pause, on va s'attarder avec Abdel, avec Nasser, Michael, Vivien et Mohamed concernant le Paris Saint-Germain. Mohamed, je me retourne vers toi. C'est vrai que parce qu'il y a tant de choses à dire. Le Paris Saint-Germain, on a toujours cette pression. Le gars qui se trouve juste derrière moi, c'est un consultant journaliste qui s'appelle Michael. Il est toujours tranquillement, serein, mais à l'approche du mois de février, je ne sais pas si c'est la Saint-Valentin qui lui fait ça, mais en tout cas, on voit que certains supporters parisien change un peu. Vivien, par exemple, il a beaucoup de cheveux qui poussent, et oui, c'est vrai. Je rigole, Vivien, mais tout comme moi. Mais c'est vrai qu'on a ces supporters parisiens qui sont un peu sous pression à l'approche de ces huitièmes de finale. Les huitièmes de finale, ça ne sourit pas toujours au Paris Saint-Germain. Pourquoi donc Mbappé l'a blessé. Malheureusement, vraiment malheureusement cette star mondiale montante.
C'est dur parce que je pense que tu vois sur cette première partie de saison avant la Coupe du Monde, la plupart des grands joueurs étaient prêts. Mbappé, Neymar, Messi, eu la Coupe du Monde, on sait ce qui est arrivé, l'Argentine a gagné. Mais aujourd'hui, ce qui est impressionnant, c'est que psychologiquement, on dirait que le PSG sont moins aptes à attaquer les huitièmes de finale. Mais quand je dis huitièmes de finale, c'est-à-dire que sur les années précédentes, je les sentais plus forts en fait. Aujourd'hui, je les sens un peu plus faibles. Peut-être que c'est une impression, peut-être que c'est aussi le championnat de Ligue 1 qui fait ça. Mais aujourd'hui, psychologiquement, de l'extérieur, on se dit... Le PSG sans Mbappé, est-ce que ça va le faire? Malheureusement, ils ont perdu Mbappé, qui est un joueur exceptionnel. Et je me dis, moi, ce joueur qui est capable de créer l'exploit aujourd'hui n'est pas là. Mais on est devant, on a quand même Messi, Neymar et on a d'autres joueurs.
C'est vrai.
Mais quand même, si, ils ont une poisse quand même qui est assez incroyable. Hein.
C'est fou. C'est fou.
C'est dingue.
Le Paris Saint-Germain, c'est assez fou. Vraiment. Ouais, non, à chaque fois, on la retrouve au mois de février-mars. Non, mais c'est vrai.
Et dans cette poisse, justement, je vais continuer. Comment?
Alors?
Justement, quand Mbappé s'est blessé, il loupe deux pénaltys. Tu vois, c'est un signe. Mbappé, il loupe deux pénaltys. Peut-être qu'il est fatigué ou pas. Je crois qu'il y a des petits signes que, tu vois, il faut avoir, arriver à sentir. Le mercato, tu vois, aux dernières secondes, ça passe pas.
Ouais.
Il y a plein de petits signes comme ça qui font que, bah, parfois, ça passe pas. Mais moi, je suis persuadé qu'ils peuvent malgré tout passer.
Bien sûr. On espère que le Paris Saint-Germain passera. Michael.
C'est ça qui est fou avec ce club, en fait, c'est qu'on sait jamais trop sur quel pied danser. Là, ça fait plusieurs. On a commencé, ils ont commencé avec Galtier très très fort. En gagnant contre Clermont, un gros score contre le LOSC aussi. Et derrière, le jeu, en fait, petit à petit, ça a baissé d'intensité, ça a baissé de rythme. Depuis janvier, c'est plus que... contre le Bayern, le problème qu'il y a, c'est que Kylian Mbappé n'est pas là. Comme tu l'as dit, il y a d'autres individualités aujourd'hui. T'as Neymar et t'as Messi. Et t'as d'autres très bons joueurs qui sont pas bons depuis un bon moment, comme Fabian Ruiz qui s'est un petit peu réveillé hier, Vitinha qu'on voit plus depuis un moment, mais ces joueurs-là sont capables, sur un gros match de Ligue des Champions, de se dire on va le faire ensemble, quoi. Donc c'est pour ça que le Paris Saint-Germain, c'est un peu compliqué à analyser, mais tout ce que on sait aujourd'hui, en tout cas, c'est que aujourd'hui, ce que propose le PSG, c'est bien trop peu, bien trop peu.
Ouais. Bien trop peu. Mohamed.
Ouais, après,
on te retrouve, Abdel.
On a une question qui revient toujours. Après,
alors, c'est laquelle?
C'est le coaching. Le coaching aujourd'hui, est-ce que Galtier est capable aujourd'hui de pouvoir gérer ces stars-là? Oui. C'est une question qu'on se
peut-être
pose.
Peut-être Nasser va te répondre à cette question.
Ah oui, non, mais. Alors là, franchement, bon. Je suis pas le plus grand défendeur de Christophe Galtier, mais bon, à un moment donné, on va arrêter de tirer sur l'ambulance.
Alors,
on parle de.
Et pourquoi?
On parle de Tuchel, on l'a défoncé.
Emery,
Tuchel, tout ça. Ils ont gagné la Ligue des Champions ailleurs. Emery, il est parti dans le sud de l'Espagne, il a remporté l'Europa League. Et là, aujourd'hui, on va parler de Galtier parce que Galtier, peut-être qu'il n'arriverait pas à maîtriser les joueurs. Mais il n'y a pas besoin. Vous mettez n'importe qui, vous pouvez même mettre Zidane. Et il va faire quoi de plus? Vous voyez ce
gagner.
Que je veux dire?
Hein? Gagner.
Il va gagner. Mais là, ce n'est pas la faute de Galtier. Concernant l'histoire du mercato.
Alors,
je pense que comme on en avait dit hier, c'est Chelsea qui a pas fait le boulot. Chelsea a déconné. Voilà, exactement. Ils ont fait une grande erreur.
Le dernier quart d'heure.
Comment?
Fallait plus attendre le dernier quart d'heure.
Non, mais c'est pas le problème. Vivien, ils dépendent pas. C'est pas eux les dirigeants de Chelsea qui ont pas fait les papiers comme il se doit.
Non, je parlais du côté du PSG.
Moi, si ça avait été moi, je serais plus orienté. Et de toute façon, d'ailleurs, je lui en parlerai dans la semaine concernant Riyad Mahrez. S'il fallait bien faire rapatrier quelqu'un, c'était lui au Paris Saint-Germain.
Mais là, tu vas mettre combien pour Mahrez? 100 millions.
Mais non, mais il y avait une possibilité de négocier quelque chose.
Avec
on pouvait négocier. Surtout que vous connaissez celui qui dirige les intérêts de Riyad Mahrez.
City n'aurait jamais laissé Mahrez partir au Paris.
Oh, s'il y avait une possibilité. Oh, il y avait une possibilité.
Au vu des propriétaires.
Du moins, moi, j'aurais misé sur
Riyad Mahrez.
Ça aurait été un super joueur, mais City ne vendra jamais un joueur au PSG.
En tout cas, Mickaël, le Paris Saint-Germain, effectivement, est en dents de scie, on va dire, même si c'est vrai que ce déplacement en Arabie Saoudite leur a fait du bien. On parle beaucoup des. Je pense qu'on avait peut-être utilisé Mbappé, peut-être en Coupe de France où il aurait dû se reposer. Voilà, il y a des matchs comme ça. Maintenant, il est blessé, mais il faut quand même garder l'espoir.
Bon, l'espoir.
Je garde l'espoir parce que c'est quand même la France qui est derrière le Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Donc, c'est important que le PSG aille cette fois-ci au bout de son rêve.
On est d'accord avec toi, Nasser.
Et voilà. Vraiment. Et donc,
bon, on va voir, Nasser.
Voilà. Alors, effectivement, premier match face au Bayern de Munich qui sera compliqué. Mais déjà, il y a aussi face à l'Olympique de Marseille.
La semaine prochaine.
On verra si elle répond.
Mercredi.
Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Ouais.
Je sais pas si vous l'avez constaté. Peut-être Abdel, qui est un spécialiste en Ile-de-France.
Ouais.
Verratti, ouais, il manque. C'est un joueur important
Verratti.
Pour moi,
Verratti. Ouais, pour
je sais
toi,
pas ce que vous en pensez.
Pour Nasser.
Pour moi,
il est bon, on va revenir sur le cas Verratti, Mbappé et aussi le Paris Saint-Germain. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. À de suite.
Voilà. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, bon, ce jeudi soir. Toujours en compagnie d'Abdel, Vivien, Mohamed de. Impossible n'est pas vrai, et aussi Nasser et Mickaël. Mickaël, il est assez serein, tout comme moi, on espère. En tout cas, on va lui donner la parole, on espère aussi notre auditeur au 0153483000. Allez, place à Abdel. On poursuit encore le Paris Saint-Germain.
Time Sport. La parole des sociaux.
Elle est assez forte, cette parole des socios, en espérant que, voilà, le PSG sera victorieux face au Bayern de Munich.
Ouais. Il y a deux socios sur le plateau, Abdel et Mickaël.
Ah bah oui, c'est vrai.
Alors c'est.
Il n'est pas supporter du Paris
Saint-Germain. C'est toujours la même rengaine avec le PSG, comme ça a été dit juste avant la pub. C'est souvent très confiant avant le tirage au sort qui a lieu en novembre-décembre, et après on commence à claquer des dents quand on arrive en février-mars lors des grandes échéances. Alors il y a plein de choses à cibler. C'est vrai que Nasser disait que des joueurs devraient être potentiellement au repos comme Mbappé ou quoi, mais le problème c'est que quand tu changes d'entraîneur tous les ans, et ben au final t'es obligé de rapporter quelque chose et de mettre ton tampon quelque part. Donc
et quand tu changes de direction sportive en plus.
Effectivement, Christophe Galtier doit aller remporter ce titre-là pour lui potentiellement, parce qu'il sait qu'il n'est qu'un pion dans l'échiquier. Donc à partir de là, montrer qu'il a su gagner avec le PSG, peut-être pour aller chercher d'autres choses vers d'autres horizons. Maintenant. Il y a des solutions sur le banc, mais qui ne sont pas viables pour moi pour jouer un huitième de finale contre le Bayern qui attaque à 8 à chaque fois dans ta surface de réparation. Alors Vitinha c'est bien beau, Fabian Ruiz c'est bien beau, Carlos Soler c'est bien beau. Quand ils sont allés au Roazhon Park, on rappelle qu'ils se sont fait manger par Hugo Choukou 2004, Désiré Doué 2005. Donc face à Kimmich, Musiala et Goretzka, je pense qu'on peut se mouiller la nuque un petit peu avant d'aller au Parc des Princes. Donc ça me dérange. Je suis très mécontent de ce qui se passe, surtout du mercato qui vient de se terminer. On a eu un mec comme Campos qui, même lui, a perdu son flair en venant, j'ai l'impression, du côté de la capitale, dans le sens où il n'y a pas une bonne piste qui est évoquée. À partir du moment où Sarabia a été vendu en milieu de mercato, ça a été le panic buy total. Des pistes incongrues, incohérentes, en passant par Ryan Cherki 2003. Quel message tu envoies à tes titis parisiens, à des joueurs comme Ismaël Garbi, des joueurs comme Johan Bakayoko du côté du PSV Eindhoven qui a 19 ans, qui regarde Xavi Simons, on n'oublie pas, meilleur buteur du PSV qui était au PSG justement, en train de tout péter.
Il aurait bien aidé le PSG contre le Bayern sur le
terrain. En plus de ça, on a eu des pistes, on a eu des Asensio, on a eu des pistes incongrues. Malheureusement, voilà, on a l'impression que Paris a trois joueurs, n'est pas capable d'avoir une profondeur d'effectif avec des joueurs qui sont capables de tourner. Il faut mettre les trois absolument et ramener des joueurs de complément à chaque fois. Donc je suis vraiment embêté par ça. Il y a deux choses qui sont plutôt positives.
Alors c'est quoi?
C'est que Presnel Kimpembe est de retour. Je pense qu'il, d'ici demain ou la fin de semaine, il reprendra le chemin de l'entraînement. Je pense que mentalement c'est quelqu'un qui est plutôt prêt et qui pourra aider le PSG. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a vu un joueur comme Zaïre Emery hier marquer son premier but.
Le disait Nasser.
Né en 2006, qui va avoir 17 ans en mars. Et c'est un mec qui, voilà, a beaucoup de personnalité, qui monte beaucoup plus que certains joueurs qui ont fait les beaux jours d'autres clubs, mais qui, à chaque fois qu'ils viennent à Paris, sont totalement détestables.
Vivien, le Paris Saint-Germain, hein. Kylian Mbappé, pas là, peut-être aussi. Ramos aussi.
Oui, ouais. c'est clairement la première chose qu'on se projette par rapport encore à Munich, c'est comment remplacer. Bon, faut s'attendre à voir Danilo associé à Marquinhos derrière. Je pense, hein, contre Munich, c'est une forte probabilité. Après, qu'est-ce que tu vas faire contre Munich, par exemple? Je me disais que si tu voulais embêter Munich, ben peut-être qu'il faudrait. Mais je pense pas qu'on ait équipe pour. Faudrait peut-être essayer de presser haut pour mettre le doute chez, notamment Pavard ou Upamecano. Même hier, je trouvais qu'ils avaient montré des petits signes de fébrilité. Je me rappelle hier un match où le Bayern s'est promené 4-0.
À 4-0 quand même.
Avec Messi et Neymar, tu vas pas forcément pouvoir presser comme ça. Donc, C'est là où, oui, là, c'est la bataille du milieu. Et quand tu vois le milieu du Bayern, c'est, ça va être très, très compliqué. Et faudrait que, je sais pas, en fait, avec l'absence d'Mbappé, je me suis dit, il faudrait que le PSG peut-être essaie de se rassembler autour de Messi comme l'Argentine l'a fait. Et c'est là où, mais t'as pas forcément. Même si t'as pas les mêmes joueurs qu'en Argentine, peut-être que là, voilà, Galtier, je pense qu'il va peut-être penser à ça, lui et son staff, et qu'il va essayer forcément de.
Il n'y a pas de joueurs de devoir comme tu peux avoir en Argentine.
Le problème, ouais. Je suis d'accord avec Mickaël, ouais. C'est exactement sur ça que je voulais rebondir. Pour Messi, même sur une courte période, on a envie de se tuer, de dire que, bon, quitte à ce que ce soit Messi la star, on va prendre quand même notre titre, etc. Au PSG, il y a énormément d'ego pour moi. Que ce soit Neymar qui avait quitté Messi justement et qui est venu le rejoindre, Mbappé qui écrase tout sur son passage, mais derrière on a un gros manque de joueurs qui manque de personnalité. Quand on parle de Vitinha, on nous a vendu que c'était un mec qui mettait 15 frappes de loin, on le voit pas. Fabien Ruiz, c'est Naples ne laisse jamais un joueur, mais comme par hasard ils l'ont laissé. On voit comment il est aujourd'hui.
Ouais. Et Renato Sanchez aussi devait amener de la personnalité.
Toute la personnalité. Lui, il est beaucoup blessé. Après ça, c'est un choix beaucoup plus concret dans le sens où coach Galtier l'a ouais, déjà eu. Je reviens juste à sur une chose. Alors, tu parlais du Bayern. Potentiellement pour combler les lacunes, ils sont passés un peu hier un système à 3 justement pour avoir beaucoup plus de profondeur dans l'axe. Là où le PSG, si je remets la question du système, on ne sait pas quel système est le meilleur pour le PSG parce que aucun d'eux n'est maîtrisé pour moi. Quand tu maîtrises le système, tu peux commencer à 3 et dire que là t'as les éléments à 4 ou inversement. Là on se dit que on fait 3 mois à 4, 3 mois à 3, on dirait des trimestres que tu fais quand t'es au collège. Donc ça me dérange, et le fait que Mbappé ne soit pas là parce que c'est un genre de percussion, ça fait tout, ça remet tout en cause parce que le PSG est devenu une équipe de transition et plus une équipe de possession, et il y a que Mbappé qui va vite malheureusement.
Avec Mohamed, après Abdel et Nasser aussi.
C'est sur l'aspect tactique, là, tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant. Hier, ils ont joué à 3 le Bayern, sachant que le PSG, voilà, il varie de temps en temps. Hier, ils ont joué en 4-3-1-2. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est qu'un 4-3-1-2 peut jouer contre un 3-5-2. Malgré tout, aujourd'hui, c'est qu'en Ligue des Champions, évidemment, c'est les détails qui vont faire la différence. Et Nagelsmann, c'est un très bon coach. Il faut pas
mais le Bayern de Munich n'aime pas subir, n'aime pas être pressé haut. Et nous, le Paris Saint-Germain, c'est pas sa force, quoi. Et c'est pour ça que je regrette que Seko Fofana n'ait pas signé au Paris Saint-Germain parce qu'il aurait densifié ce milieu de terrain. Exactement. On a besoin de physique.
C'est vrai,
quoi.
C'est intéressant, c'est vrai.
Oui. C'est des profils qui n'ont pas été remplacés quand tu vends Idrissa Gueye et que tu remplaces pas le joueur qui a un peu ce profil qui est capable de monter d'un cran. Bon, il l'a pas toujours fait, Idrissa Gueye au PSG, ça n'a pas été tout rose. Mais c'est vrai qu'on a des joueurs qui se ressemblent beaucoup, et comme tu l'as dit, c'est pas une équipe de pressing ou de contre-pressing le PSG. Et avec Kylian Mbappé qui n'est pas là, c'est quoi ? C'est soit Carlos Soler, et du coup tu mets Neymar Messi plus haut, ou soit tu mets Hugo Ekitike. Mais encore une fois, Hugo Ekitike, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il a une bonne passe fin d'année, début d'année. Et il a marqué quelques buts. Il a mis 4 buts en 5 matchs.
Oui.
Mais dans le contenu, Ekitike, c'est encore très léger. Il a 20 ans, il faut lui laisser le temps, c'est sûr. Mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, sur le banc en attaque, c'est Ekitike et Carlos Soler. Donc, c'est compliqué. C'est vrai. Est-ce qu'il aurait pas fallu laisser un peu plus de temps à des joueurs comme un joueur comme Ismaël Garbi qui a été intéressant sur ses sorties, plutôt que d'utiliser Pablo Sarabia alors que tu savais très bien qu'il voulait partir, tu le laisses partir sans prévoir de dossier de plan B. Tu te précipites sur Cherki, sur Malcolm, tu te précipites sur
Malcolm. Ouais, on arrive toujours au même problème alors. Problème du mercato.
J'ai un souci avec la direction du PSG.
Ouais, on a toujours un souci. Et ce souci, il arrive toujours au mois de février et mars. Vas-y.
Ce qui me dérange avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a eu la prolongation de Kylian Mbappé le 21 mai, on est d'accord. Derrière, il y a eu un chamboulement total. Donc, t'as fait partir Leonardo, t'as fait partir Mauricio Pochettino et t'as mis Luis Campos.
Ouais.
Sauf que quand tu changes de directeur sportif avant même le mercato estival, c'est qu'il y a un gros problème déjà. C'est-à-dire que Campos, il est arrivé en juin, le mercato, il ouvrait le 9 juin. Donc peut-être qu'il a travaillé en amont 2-3 semaines avant, mais vous voulez pas me faire croire que Luis Campos, il bossait avec le PSG depuis 6 mois ou 7 mois.
Mika, si je peux te couper, que déjà avoir un conseiller sportif ou je ne sais même pas c'est quoi son rôle, en freelance, qui s'occupe des transferts du Celta Vigo pendant que le PSG est en train de faire une transaction pour Ziyech, c'est fou. Et ça témoigne encore d'un cruel manque de compétences, dans le sens où les joueurs qui viennent au PSG, ils viennent subir, ils viennent pas apporter une plus-value, ils sont à la merci des trois stars devant, ils sont pas capables d'apporter du caractère, de la personnalité, je le répète souvent, mais à un moment donné, le coach, on a beau dire ce qu'on veut, quand tu as envie de gagner des titres, que ce soit collectivement ou individuellement, c'est à toi de te bouger les fesses, et là je vois pas de joueur capable de faire la différence, que ce soit le 14 ou début mars face au Bayern.
On a pu critiquer par exemple un joueur comme Leandro Paredes.
Oui.
Mais je suis désolé, aujourd'hui, Leandro Paredes, on l'a pas au PSG. Et il n'y a pas la moitié de Leandro Paredes chez Carlos Soler ou Fabian Ruiz. Non, mais après, moi, je suis pas le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Ah, c'est à eux de travailler, tu vois.
Après, le Paris Saint-Germain, quand il négocie pour acheter des joueurs, c'est toujours compliqué. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi.
Allez, vas-y.
Chaque fois qu'il négocie, les prix augmentent. C'est sûr, on surenchère à chaque fois parce qu'ils savent que, c'est le Qatar qui est derrière. Donc, il y a ça aussi. Cette difficulté-là, c'est compliqué pour négocier. Et voilà pour quelle raison aussi à Chelsea, on s'est fait avoir.
C'est le choix qu'a fait le Paris Saint-Germain. Voilà. Quand les Qataris sont arrivés, ils ont mis de l'argent partout, ils ont acheté avec des gros salaires. Ben c'est la revers de la médaille aujourd'hui.
Dur avec le Paris Saint-Germain.
T'avais qu'à travailler plus intelligemment de base, c'est-à-dire Mohamed Diouf
avec cette équipe.
Aujourd'hui la stratégie, je me pose des questions parce qu'on arrive avec Messi, Neymar, Mbappé, les autres t'as un néant avec les joueurs de second couteau entre guillemets. Donc pour moi la stratégie elle est pensée à l'envers en fait. Il y a rien qui est cohérent dans ce projet.
J'ai l'impression que le PSG soit n'a plus d'argent entre guillemets, soit ne veut plus dépenser. Ça fait combien de temps que le PSG n'a pas envoyé Tapie sur une recrue? Parce que le problème du PSG en fait, c'est bien de vouloir que des joueurs justement de complément pour pas blesser l'ego de ces stars et de dire je mets 20 millions là, 30 millions là. Mais en fait, quitte à mettre 80 millions sur un joueur plutôt que 3 et qui t'apporte une réelle plus-value et qu'après t'arrives à coïncider et à créer quelque chose, je le vois pas aujourd'hui au PSG. Je trouve ça malheureux parce que en fait, il manquait un gardien au PSG. Ouais. On l'a pris. On l'a pas respecté. Alors, il manquait tel joueur. Voilà. On l'a pris, on l'a pas respecté. Ouais. Maintenant, après 7 ans, 8 ans que Thiago Motta est parti, il manque une sentinelle. On l'a pas remplacé. Au final, c'est toujours pareil. Qui travaille, peut-être des emplois fictifs.
Merci Abdel.
Moi, j'avais des points positifs quand même.
Ouais. Quoi, on va revenir à tes points positifs. Mohamed, peut-être. Des points positifs ou négatifs? Oui.
Moi, c'est par rapport à l'attaque du PSG. Aujourd'hui, on a quand même 3 grandes stars qui sont incroyables, qui peuvent jouer dans n'importe quel club européen tous les jours. Mais ce qui me pose problème derrière, c'est la profondeur de banc offensivement. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, on a un jeune qui est critiqué. Oui. C'est un bon joueur. Mais pour moi, j'estime que, tu vois, il faut quelqu'un qui a plus d'expérience derrière Mbappé. Oui. Malheureusement, il se blesse aujourd'hui. Là, c'est un peu la panique devant. C'est un peu la panique.
Mais on n'aime pas les garder. C'est pour ça. Regarde, la manière dont ils ont laissé partir Cavani.
Ça, c'est fou quand même.
Ça prouve que le PSG n'aime pas avoir un peu d'expérience qui peuvent te sortir du banc.
Oui, ça sert.
Moi, j'ai envie de garder le positif et j'ai envie d'inviter les dirigeants parisiens à titulariser des titis parisiens comme Emery, par exemple. Pourquoi pas dès ce week-end face à Toulouse. Et j'ai envie de voir aussi Garbi un petit peu pour les préparer à des prochaines séances. Les petits jeunes, j'ai envie de les voir. J'ai envie de les voir un petit peu.
Maintenant, il n'y a pas beaucoup de cartouches sur le banc, donc il va falloir les mettre au charbon.
Voilà, c'est ça. Il faut garder l'espoir et puis
mais on a l'impression quand même que ce soir à vous entendre, même je serais le dernier à le dire, mais nos auditeurs vont peut-être se tirer les cheveux ou avec tes propos
tout ce qu'on a dit,
le Paris Saint-Germain va directement être éliminé face au Bayern de Munich. Je sais pas,
manque de banc, ils peuvent passer contre le Bayern.
Ils vont passer
Paris Saint-Germain.
Je pense que le PSG va passer, c'est ça le pire.
Quand t'entends, dirais pas.
Il y a aucune cohérence.
Non, mais ça va revenir, il faut garder l'espoir
en fait. Il n'y a aucune cohérence sur le Michael.
Non,
Nasser, toi, Nasser et Dino.
Non,
pas de cohérence sportive.
En fait, je suis pas d'accord avec Michael ce soir sur l'histoire de la cohérence.
Oui,
Michael.
Si, regarde, ça fait des semaines que le PSG joue mal. Ils éliminent le Bayern en jouant correctement. Mais là, tu te dis, t'es content. Mais tu te dis, mais il y a où la logique? Ça fait 6 mois qu'ils jouent pas, les mecs. ça fait 6 mois qu'ils n'arrivent pas à faire, un appel en profondeur, passe en profondeur, un mouvement intéressant, un contre-pressing. Et derrière, ils vont le faire contre le Bayern. Mais moi, je trouve ça plus frustrant qu'autre chose. C'est tout.
Ouais, mais ouais. Attends, je pense je suis d'accord. Même moi, si je tape fort sur le PSG en ce moment. Ouais. Mais je pense qu'il faut laisser un peu Galtier récupérer son équipe. Bien et sûr. Essayer de faire ce qu'il peut. Je pense que là, il va peut-être plus se focus sur la Coupe de France et sur le Bayern. Parce que là, honnêtement, il a quand même perdu Mbappé, un joueur très important pour l'équipe, parce que Paris sans Mbappé, c'est plus Paris. Et je pense qu'il va essayer de faire regagner de la confiance aux joueurs. Et Galtier, on l'a bien vu par ce passage à Lille et à Nice, c'est une grande gueule. Et je pense qu'il peut faire très très mal, comme il a fait en début de saison.
Moi, je garde espoir, parce que vous voyez le Bayern de Munich a perdu Sadio Mané.
Ouais.
Et le Bayern avance encore. Ouais, ouais. Donc le Paris Saint-Germain, pourquoi pas sans Mbappé.
Galtier va nous montrer à quel point c'est un très bon coach au mois de février.
Merci Vivien.
On verra tout cela. Un grand merci à toi Vivien. Un grand merci à Nasser, Abdel, à Mickaël de m'avoir accompagné, sans oublier aussi Mohamed, impossible n'est pas vrai, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM, 20h-21h. À la réalisation, la personne d'Anthony qui reste avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Vanessa arrive, 21h-23h. Oui, Nasser, peut-être un petit mot. Vas-y Nasser.
J'ai envie de garder l'espoir aussi pour la Juve, parce que la Juve doit absolument se maintenir et ça va être compliqué et j'espère qu'ils vont se maintenir.
Ah bon, on va voir tout cela en tout cas. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière de la semaine. Bye bye et très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.